ATSA tient à souligner que le projet Cuisine ton quartier a été enregistré sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles le projet est installé font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse.
Bienvenidos al podcast Cocina tu bar.
Cuisine ton quartier.
Cuisine au teu bairro.
Cuisine dans quartier avec nous.
Et tabakh hayye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et matbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de ATSA quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Bonjour Brigitte Léger.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette entrevue. Je sais que tu es une dame très occupée, qui a tout un rôle important à jouer dans la communauté ici. Mais premièrement, toi, tu es franco-manitobaine de souche. Tu te dirais depuis combien de souches, là?
Tu veux ma date de naissance, c'est
non,
ça?
Non, y a-tu une arrière-grand-mère, arrière-arrière? Ouais. Ça retombe
à quoi? Je suis née au Manitoba. Je suis deuxième génération. Okay. Alors, mes grands-parents venaient de la France et la Belgique.
D'accord.
Mais côté paternel, on est ici depuis longtemps. Alors, okay. J'ai des ancêtres autochtones et je suis fière métisse aussi.
Excellent! Alors, ouais. Oui, ah, super! Et puis, tu as toujours travaillé en français, ce qui est quand même vraiment formidable.
Oui, j'ai vraiment eu une bonne chance avec ça. J'ai commencé très jeune avec le Cercle Molière quand j'avais 13 ans. Et suite à mon secondaire, c'était mon premier emploi. J'ai travaillé en faisant la régie et en faisant une tournée comme comédienne. Et j'ai travaillé plusieurs années au Cercle Molière. Et là, j'ai fait des prélèvements de fonds dans le domaine des arts et beaucoup le théâtre. J'étais beaucoup impliquée avec le théâtre. Et éventuellement, en tourisme, j'ai fait la promotion du Manitoba français, mais pas juste le Manitoba, tout l'Ouest.
Okay.
Alors, pour le corridor touristique francophone de l'Ouest, le CTFO.
Oh mon Dieu, je savais pas que ça existait, ça, ouais. Formidable.
Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années, avant de rentrer en immigration. J'aurais jamais pensé faire la plus grande partie de ma vie en immigration, et voilà, c'est ce que je fais maintenant
depuis
15 ans.
En même temps, ça fait de toi une personne qui peut mettre en valeur le Manitoba comme personne?
J'espère que oui.
Ben, je suis certaine. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui veulent immigrer ici pour les convaincre de venir ici?
C'est drôle, c'est plus vraiment les convaincre. Peut-être il y a 10 ans, il fallait parler du Manitoba, les gens ne connaissaient même pas c'était où le Manitoba, quoi le Manitoba. Mais vraiment, on est rendu où les gens connaissent bien qu'on existe, qu'on est une province en plein centre du Canada. Et vraiment, je suis choyée parce que je travaille avec des candidats qui ont choisi le Manitoba avant même de rentrer en contact avec moi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, bien, on parle évidemment, parce que je travaille avec des immigrants francophones, je parle beaucoup de la francophonie et l'importance du bilinguisme au Manitoba. Mais je vends aussi l'opportunité de vivre et travailler en anglais, de pouvoir maîtriser aussi cette deuxième langue officielle de notre pays qui attire beaucoup de gens. Alors, de francophones qui décident, bien, on ne va pas aller dans la seule province francophone au Canada parce qu'on veut pouvoir bien apprendre l'anglais et on veut que nos enfants deviennent bilingues. Et c'est un atout pour nous de pouvoir balancer cette vie sociale en français, culturel, parce que c'est très riche ici. Hein? On a vraiment une belle culture francophone, mais une belle culture en général de célébrer toutes les cultures. Et je pense que ça attire les gens aussi. Je pense que c'est un grand atout qu'on a ici. Mm-hmm. Puis une ville à taille moyenne. Et c'est une ville extraordinaire pour élever une famille. Et je pense que ça aussi, ça attire. Au lieu d'une grande ville... Pourtant, on a tous les bénéfices d'une grande ville métropolitaine, je vais toujours le dire, au niveau de la culture, le culinaire et tout, mais on est quand même petit et on a des belles communautés au rural, on peut vivre proche du centre-ville en étant dans une communauté comme Saint-Boniface. C'est une belle communauté résidentielle, mais dans 10 minutes, je suis au centre-ville.
Maintenant, travailler avec des candidats francophones pour ce programme Candidat du Manitoba, c'est ça, ça fait 15 ans que tu travailles auprès de ces personnes. Puis ça s'appelle quoi? Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, c'est ça?
C'est ça. C'est le CDEM.
Voilà.
Alors, CDEM.
Oui, oui.
Alors, je suis au CDEM depuis un peu plus de 3 ans okay. maintenant. Avant, c'était l'ANIM, l'Agence nationale et internationale du Manitoba, okay. qui avait vraiment mis l'emphase sur l'immigration et bien pour pouvoir bien travailler avec la province, avec leur PCM, le Programme candidat du Manitoba. Et l'ANIM est devenu le World Trade Center Winnipeg. J'étais là pendant 12 ans en faisant l'immigration. Et là, parce qu'il y a tellement un beau programme d'employabilité, et le CDEM, c'est un organisme à but économique, et on a décidé que c'était un meilleur fit de continuer ce programme d'immigration au CDEM. Alors, je suis venue au CDEM pour continuer.
C'est ça,
là, c'est toujours là, okay. le même programme.
Invitation au Manitoba, c'est ça?
Oui, ouais. Alors, on a développé avec la province. Parce que pour qualifier au programme, le PCM, le Programme mm-hmm, candidat mm-hmm. du Manitoba, en plus d'avoir un certain âge, une expérience de travail, une profession qui est en demande au Manitoba, une formation postsecondaire, avoir des fonds nécessaires aussi pour subvenir à nos besoins une fois arrivé au Manitoba, il faut avoir un lien à la province. Alors, ce lien-là peut être une offre d'emploi, avoir étudié ici. Alors, on sait, après 2 ans, 3 ans, on crée des liens. Ou qu'on a de la famille proche ou des amis proches qui peuvent appuyer notre demande d'immigration au Manitoba. Okay. Alors, on sait que les gens qui ont un lien réussissent tellement mieux, ils ont cet appui. Mais avec la communauté francophone et le nombre d'immigrants qui venaient au Manitoba, alors on accueille toujours entre 14 et 16 000 immigrants chaque année, et une grande majorité de ces immigrants-là passent par le programme candidat du Manitoba. Alors, on est un peu différent de d'autres provinces parce que notre programme englobe une majorité de nos immigrants. Et là, la communauté... Ben non, là, je parle d'immigrants, tous les immigrants là, qui arrivent oui, à la province. Oh boy!
Ça serait ça quoi serait... le pourcentage?
Ouais,
c'est
ouais.
ça, mon Dieu! Ça
serait beaucoup d'immigrants francophones, ouais. ça.
Le
alors, la communauté francophone a créé une entente avec le gouvernement du Manitoba parce que le gouvernement du temps, alors il y a 20 ans, ça existe quand même depuis plus de 20 ans, le PCM, et il y a toujours eu un volet ou un aspect francophone parce que la province a toujours vu le bénéfice du bilinguisme dans notre province. Et on a changé de gouvernement à plusieurs reprises depuis les derniers 25 ans. Mais les gouvernements ont toujours cru dans l'importance du bilinguisme. Et ce programme a vraiment vu un beau développement. Et là, c'est vraiment une entente officielle entre le CDEM et le PCM et le gouvernement du Manitoba pour ce volet stratégique francophone. Et il y a 10 ans ou 12 ans, il y avait peut-être 10 ou 12 visites exploratoires dans une année. Bien là, on fait plus que ça dans une semaine.
OK.
Oui.
Donc, les immigrants francophones peuvent venir ici, faire une visite exploratoire, genre tout payé?
Oh, non.
Non,
payé, okay. oui, par leurs propres moyens.
D'accord. Okay.
Oui.
Donc, eux, ils payent ça.
C'est ça.
Puis, une fois qu'ils sont venus, puis qu'ils ont visité, puis qu'ils se disent, ouais, j'aimerais ça venir immigrer ici, là, on peut les aider
oui.
à faire leur démarche.
Alors, c'était aussi relax que ça dans le temps.
Okay.
Alors, vraiment, quelqu'un décidait, rentrer en contact avec nous. « Ah, ben là, je vais venir. » Ben là, à un moment donné, on a commencé à évaluer des dossiers pour s'assurer que les candidats répondaient à toutes les exigences du programme avant qu'ils viennent. Et là, on faisait peut-être 30, 50 visites par année. Alors là, c'est monté à 60. Avec l'entente, avec la province, c'est devenu plus structuré. Et c'est rendu qu'on recevait des centaines et des centaines de demandes pour venir en visite exploratoire, qu'on devait approuver avant qu'ils viennent. Il y a presque 3 ans maintenant, il y a 2 ans et demi, vu l'intérêt énorme que la province a dû créer un bassin de demandeurs de visites exploratoires. Et l'année dernière, il y a eu plus que 6 000 personnes qui ont soumis une demande officielle pour venir en visite exploratoire.
Wow.
Et comme des raisons, c'est pas tout le monde. Là, c'est presque C'est par chance qu'on est sélectionné parce que c'est pas tous les candidats.
Genre tirage au sort un peu.
Oui, mais il y a quand même une stratégie. Là, c'est la province qui sélectionne des candidats et vraiment vont regarder les emplois en plus forte demande d'un mois à l'autre et vraiment jouer dans les professions. Et c'est rendu que la province sélectionne une soixantaine de candidats, 75 candidats par mois. Et là, nous, on évalue leur dossier pour s'assurer qu'ils répondent bien aux exigences. Et l'année dernière, on a approuvé environ 350 personnes. Alors, une personne, c'est le requérant principal. Et la majorité, c'est une famille.
Tu parles vraiment d'un immigrant francophone ou anglophone, là, quand
non,
tu
moi,
parles.
Là, je là, parle du programme de visite exploratoire pour les francophones.
Puis ça serait quoi le taux de rétention?
Il n'y a pas encore eu de sondage et on se prépare pour ça. Parce qu'il y a eu des sondages auprès des candidats de province en général qui a été fait par l'Université du Manitoba. Et alors ça, c'est tout confondu, tous les immigrants qui ont passé par le programme candidat du Manitoba. Et ce sondage-là ou cette étude-là date déjà maintenant de peut-être 9 ans. Et le taux de rétention, si je me souviens bien, était 85 %, qui est très élevé pour le programme candidat du
Manitoba. Donc, des gens qui arrivent en français, réussissent à se trouver du travail, bon, probablement en ayant appris l'anglais aussi.
Oui.
Puis, est-ce qu'on sait si ces personnes continuent de vivre en français, envoient leurs enfants à l'école francophone, ont des services en français, ou tu as l'impression que oui, ils arrivent en français, mais qu'au bout de 10 ans, tu sais, c'est l'anglais qui a pris le dessus.
Oui. Alors, je ne pourrais pas te donner des faits absolus. Mais parce qu'on reste, on est quand même une petite communauté. Et c'est vrai, on essaie vraiment de rester en contact avec les clients. Et on les voit. Je veux dire, là, j'ai une petite fille à l'école et je vois mes clients à l'école ou dans les écoles parce qu'on visite les écoles avec nos clients. Et c'est un peu notre responsabilité quand on fait la promotion du Manitoba et on les guide à travers cette visite exploratoire. C'est justement pour leur faire créer un lien à la communauté francophone, anglophone aussi, parce que c'est la réalité et on a une grande responsabilité de s'assurer qu'ils comprennent très bien qu'il va falloir maîtriser l'anglais. S'ils ne le maîtrisent pas déjà, ils ont le temps déjà entre leur visite exploratoire et l'arrivée avec la résidence permanente d'améliorer l'anglais. Et le gouvernement investit aussi dans des cours d'anglais. Mais ceux qui ont le plus de difficultés sont ceux qui ont un très bon niveau d'anglais.
Ouais.
Ils ne peuvent pas être refusés dans leur procédure d'immigration, mais les organismes et tout, on est là pour les appuyer, pour qu'ils améliorent avant même leur arrivée. Et puis là, qu'ils ont des cours intenses une
fois
arrivés.
C'est un choc des fois. Hein?
Oui.
Ils ne sont pas toujours si au courant.
Oui, mais ils sont au courant.
Il y a le dire, mais il y a le vivre.
Oui. Et je peux dire que cette visite exploratoire-là, on leur parle de l'importance de l'anglais dès la première communication avec eux. Parce qu'on ne veut pas, je ne veux jamais les induire en erreur. Et il faut leur parler des réalités. Autant de leur parler de l'importance de l'anglais que le grand froid l'hiver. Ça se peut qu'on a des moins 40 l'hiver, comme on a des plus 35 l'été. Et on a des moustiques ici. Il faut leur parler des réalités. Ouais. On ne vend pas un rêve, là. Et on a une grande responsabilité pour leur vendre une réalité. Mais on a tellement de bonnes choses que, tu sais, il y a un ballon dans tout ça.
Tout à fait. Est-ce que, toi, tu dis, je suis une franco-manitobaine de souche. Est-ce que vous leur parlez éventuellement de l'histoire puis de toutes les batailles qu'il y a eu, tu sais, ne serait-ce dans les années 80, les crises de l'école, tu sais, quand même, si les nouveaux arrivants arrivent ici en français et peuvent avoir une communauté francophone, des écoles, des services, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et j'imagine qu'on veut aussi, par leur arrivée, que tout ça continue de vivre, hein? Créer une démographie. Donc, est-ce qu'on en parle de ça
suffisamment? On en parle. Je veux dire, c'est pas une grande leçon dans l'historique de l'immigration. Mais on leur parle de pourquoi on parle toujours français ici et pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'il y a un programme stratégique francophone? Pourquoi est-ce que la communauté francophone au Manitoba trouve que c'est important? C'est important parce qu'on va disparaître si on ne le fait pas. Et je leur dis ça. Vous êtes là pour nous aider à garder nos droits linguistiques, afin de garder nos services, nos écoles. On a besoin de vous. C'est important. C'est ce qui nous réunit, finalement, c'est cette langue. Et je leur parle parce qu'on va toujours parler, parce que je vais toujours faire la promotion de nos écoles francophones. Et ce n'est pas tous nos candidats qui ont des enfants, mais une grande majorité, ils ont des jeunes enfants. Et ils ne comprennent pas ce que c'est vivre dans une minorité. Et je vais toujours leur parler de cette expérience que j'ai vécue en tant qu'enfant, que j'ai vécue en tant que mère, qu'à un moment donné, les enfants arrêtent de parler le français. Et si on leur parle de l'importance de les mettre dans une école francophone, que s'ils ne le font pas, leurs enfants vont perdre le français. Ce n'est pas assez de juste le parler à la maison. Et c'est de leur faire comprendre, parce qu'ils veulent tellement que leurs enfants parlent anglais, que c'est tellement important. Mais pourquoi est-ce que je veux mettre mon enfant dans une école francophone? Je dois leur expliquer. Inquiétez-vous pas de l'anglais. Ils vont vivre dans un océan anglophone et on leur dit tout le temps, on a un dicton ici, le français s'apprend, mais l'anglais s'attrape comme un virus. Et c'est un peu drôle de le dire maintenant, je devrais dire un rhume, mais, wow. Mais c'est la réalité. Mm-hmm. Je vais rencontrer des candidats qui sont venus et qui sont là depuis longtemps et ils vont me le dire. C'est vrai, mon enfant a appris l'anglais avant même de commencer l'école et c'est la réalité. Je leur ai parlé de ça par rapport à mes enfants
oui,
et maintenant
fois,
mes petits-enfants.
J'imagine que l'enfant va ouais. peut-être à l'école primaire, secondaire en français, mais inévitable. Tu sais, des fois, ça se passe.
Au secondaire, c'est fini. Ils parlent en français.
Et... La culture hégémonique
ouais,
américaine.
Absolument.
Aussi,
Hollywood, la musique, tout est en anglais. Et c'est facile de parler l'anglais.
C'est ça.
Mais c'est de toujours garder. C'est une lutte avec les enfants.
Ouais.
Les enfants dans une école primaire, ils parlent le français. C'est moins. On visite une école et tout le monde se parle en français. On l'entend dans le couloir. Mais on va visiter une école secondaire et je vais toujours avertir les parents. N'oubliez pas ce que je vous ai dit là, par rapport à
là, vous allez comprendre
vivre dans l'océan anglophone. Et dès que les jeunes ont 12, 13, 14 ans, c'est la langue cool, tout le monde se parle
dans
l'anglais.
Dans une école francophone,
et
on
tout
parle
ce qu'on
anglais
entend,
dans les corridors.
C'est ça, on entend dans les couloirs les jeunes qui se parlent en anglais. Mm-hmm. Puis je leur dis, c'est pourtant toutes des francophones. Mm-hmm.
Donc maintenant, le visage de la francophonie manitobaine. Tu sais, les gens viennent de où en majorité? C'est, ben, évidemment, elle est encore beaucoup blanche de souche et tout ça,
mais
ça
beaucoup
change,
moins.
Les résidents. Ouais.
Beaucoup moins. Si on visite les écoles dans la ville, on peut facilement voir, et je, comme exemple, dans mon quartier où mes enfants ont été à l'école, j'ai des enfants qui sont dans leur trentaine. Il n'y avait pas d'enfants noirs à l'école. Peut-être un enfant dans une des classes de mon fils. Mais j'ai aussi un enfant qui a 23 ans là maintenant, ou 22 ans. Et ça a vraiment commencé avec lui. Lui, il a vu vraiment l'immigration francophone et il y avait de toutes les couleurs dans sa classe. On le voyait, il a appris à jouer et à respecter tout le monde. Mais encore plus maintenant, je dirais qu'à une des écoles les plus populaires dans le quartier, il y a probablement au moins 40 % d'immigrants dans cette école-là. Alors vraiment, et on le voit non pas seulement reflété dans les étudiants, mais aussi dans le personnel de soutien, dans les enseignants. On le voit. On voit des femmes en voile qui sont enseignantes. On voit des Africains qui sont à la direction de l'école. Alors, vraiment, c'est beau à voir parce que les jeunes se voient aussi dans les
Donc,
postes importants.
Exactement. Donc, une communauté francophone très multiculturelle.
Très multiculturelle.
Puis, les parents de cette communauté travaillent principalement dans quoi? Qu'est-ce qui attire le plus?
C'est vraiment de tout.
Mais des gens très scolarisés, j'imagine aussi, parce que quand on arrive ici avec tout ce que tu me disais de paramètres tout à l'heure...
Ils doivent avoir une formation post-secondaire.
Okay.
Alors, ils doivent avoir fini le secondaire et avoir une formation post-secondaire. On a des mécaniciens, on a des ingénieurs. Je veux dire, il faut faire partie de la liste des professions en demande au Manitoba. Mm-hmm. Et on a quand même une économie très diversifiée au Manitoba. On est toujours la province parmi le taux de chômage le plus bas au Canada. On a toujours des emplois. Alors, on a vraiment une grande variété de besoins de postes. C'est des centaines de postes qui sont sur cette liste de professions en demande. Mais je peux vous dire, dans le domaine de communication et enseignement, la province fait des exceptions pour des francophones. Parce qu'un enseignant ou un prof universitaire ne qualifie pas au programme candidat du Manitoba s'il ne parle pas français. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas tellement un besoin d'enseignants de langue anglophone ou de langue anglaise. Mais on a une pénurie dans nos écoles. Alors, c'est aussi comment ce programme-là peut nous aider dans notre communauté francophone, c'est d'identifier des besoins spécifiques pour des postes bilingues. Alors, il y a des postes aussi en communication qui sont en demande. Et voilà, c'est là où on sélectionne des candidats francophones pour combler ces postes-là. Mm-hmm. On a aussi une responsabilité de leur expliquer et de leur faire comprendre et de les mettre en contact avec des ordres professionnels. Alors, on sait, l'enseignement, c'est compliqué au Canada. Mm-hmm. Et on ne peut pas juste venir enseigner. On doit passer par l'ordre des enseignants. De chaque province et territoire gère leur propre ordre. Et c'est compliqué. Mais déjà, au tout début et même avant la visite, on commence à travailler avec ces candidats-là. On a des partenariats avec l'Université de Saint-Boniface pour qu'il y ait des rencontres avec les gens de l'université et notre division scolaire franco-manitobaine qui les rencontre, qui leur donne une présentation pour parler de la profession d'enseignement dans une école, mais aussi les démarches pour être reconnus. Et malheureusement, souvent, les candidats doivent retourner aux études. Ils doivent faire une année ou deux à l'Université de Saint-Boniface avant de recevoir leur certificat pour pouvoir pratiquer.
Mais après, il y a quand même de très bonnes chances d'être engagé ça. Par contre.
Ouais. Oui. Et entre-temps, ils peuvent aussi avoir, parce qu'on a tellement un besoin, une pénurie dans nos écoles, que la DSFM fait une exception, et l'ordre professionnel aussi, que s'il y a un poste dans une école de la DSFM, un candidat pourrait, encore après avoir évalué leur profil, pourrait avoir un permis temporaire ou un certificat provisionnel qui leur permet d'enseigner et combler le besoin pour nous tout en suivant leur cours à l'université.
Oui, c'est ça.
Et je pense que la plus grande différence, c'est vraiment la façon qu'on enseigne. C'est moins les cours théoriques, c'est vraiment la façon qu'on enseigne les jeunes. Mmh. Et c'est ça qui doit être appris parce que ça va être tellement différent de ce qu'on voit en Afrique ou en Europe, le vieux système français.
Qui change, hein, même là-bas, parce que moi, j'ai commencé aussi, là-bas aussi, puis je pense que ça change. La perception du Québec. Justement, tu parlais d'enseignement, tu parlais de voile tantôt. Est-ce qu'ici, ça s'est organisé un peu? Est-ce que je ne m'abuse par rapport à notre loi 21?
Mes clients en parlent beaucoup. On se fait questionner là-dessus. Et j'oserais croire que toutes les autres provinces se font questionner aussi par les francophones. Est-ce que c'est comme au Québec? Avez-vous une loi chez vous? Et je suis fière de dire que non. Je suis fière de dire ça. Comme des raisons, on va toujours avoir des préjugés. Ça, c'est la nature humaine, je crois. Mais d'après ce que je vois et mon expérience personnel et même dans mon environnement de travail, qui a beaucoup changé aussi au cours des années, qui reflète justement les immigrants qui arrivent et qui comblent des postes en besoin. Je pense qu'il y a une attitude assez ouverte et comme des raisons, il y a des pratiques culturelles qui sont différentes. Et ça, je pense, ça tombe à la direction de gérer ça, de comprendre les différences de culture et la culture de travail est différente aussi. Mais nos associations et nos organismes, comme l'Accueil francophone, comme le CEDEM, qui offrent des séminaires et des sessions d'information pour les immigrants, mais aussi pour la communauté, pour les centres culturels et les CEDEM et les écoles. Comment est-ce qu'on vit avec les autres? Comment est-ce qu'on peut accepter? Comment comprendre les différences entre les cultures? Et des fois, des pratiques vraiment particulières d'un pays, de comprendre pourquoi quelqu'un ne regarde pas dans les yeux. Mm-hmm. Comme, tu sais, nous, on voit ça mal, comme on juge quelqu'un, qu'ils ont quelque chose à cacher. Et quand on comprend que c'est une affaire de culture, que c'est mal poli ou c'est juste pas accepté de regarder quelqu'un dans les yeux, tu sais, on commence à comprendre tout en expliquant que comment est-ce que nous, on voit ça ici aussi. Alors, c'est des deux côtés. Mais l'affaire de voile, moi, j'ai jamais vu de mes yeux ou entendu quelque chose de préjugé par rapport à ça. Et pourtant, Il y a des femmes en voile partout dans la communauté francophone. Mm-hmm. Et je peux dire qu'une grande majorité de mes clients sont maghrébins. Et pas tous, mais beaucoup vont porter le voile. Mais ils ne se gênent pas de questionner sur comment on les perçoit ici, comment ils sont acceptés. Parce qu'ils entendent, ils savent ce qui se passe au Québec. Et ça
mais
leur
en même temps, il
ne
faut pas non
raison.
Plus généraliser au Québec. Non, puis,
non. Mais c'est une réglementation de la province. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans la province...
Et nécessairement est d'accord, oui, évidemment. Non. Puis oui. Bon, ça, oui. On verra qu'est-ce qui oui. découlera de tout ça. Ton coup de cœur ici, toi, dans la culture, au niveau artistique, ton rêve, là, il y aurait un spectacle ce soir, là, puis ton artiste préféré d'ici joue, là, ça serait qui?
Oh, jeez, mon artiste. Karine Badeau,
okay.
C'est une immigrante qui est ici depuis plusieurs années, une cliente aussi. Pardonne-tu ce que j'appelle le mien? Non. Ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre.
Ben, en terminant, qu'est-ce que tu aurais à rajouter sur ton travail, tes coups de cœur peut-être, un coup de cœur, les gens à qui tu t'es particulièrement attaché? Penses-tu que tu vas faire ça longtemps?
Il y en a encore, y en a
Brigitte.
Tellement.
Ouais, hein?
Probablement pas. Je pense... Probablement pas. Je suis à l'âge où je commence à penser à ma retraite.
OK, OK.
Mais je me dis, je suis chanceuse si je peux faire ça encore quelques années. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens d'un peu partout et de faire partie, de faire réaliser les rêves des gens.
Ah oui, ça doit être vraiment touchant quand tu vois des gens que tu as rencontrés puis qui sont bien établis ici puis contents. Puis ton rêve, là, ton plus grand souhait en prenant ta retraite, tu vas te dire quoi? Ce que je souhaite pour l'avenir, j'espère que quoi pour la communauté francophone?
Bien, je souhaite que ce programme continue absolument et qu'on peut l'augmenter et l'agrandir. D'après ce que la FCFA a dit récemment, là, on parlait toujours d'un 4 à 7 % des migrants francophones, mais on parle de 23 % maintenant dans les prochains 10 ans. Je crois que c'est ça qu'ils ont dit. Alors, je me dis, waouh, on a du travail à faire. Et l'investissement pour s'assurer que ces gens-là ont des bons services d'établissement. Parce qu'ils laissent tous ces gens-là. Comme j'oublie jamais ça. C'est des gens courageux. Je leur dis toujours, c'est courageux de venir d'ailleurs et laisser la famille, les amis et tout recommencer. C'est un programme économique, là. C'est des gens qui ont une bonne vie. Ils ne quittent pas une mauvaise vie. Ils veulent juste une meilleure vie, et surtout pour leurs enfants. Et je vois ça. Ils laissent leur maison, ils laissent leur emploi avec beaucoup, beaucoup de seniorité. Ils arrivent ici et ils recommencent à zéro. Et c'est souvent un grand pas en arrière. Mais on leur dit toujours que c'est juste pour quelques années, qu'on peut avancer rapidement. Et c'est ça que je vois. Les gens, une fois établis, une fois que leur anglais est maîtrisé, ils avancent vraiment bien dans leur...
Des gens motivés.
Oui, et que ça continue, ça. On en a besoin, le mm-hmm. Canada en a besoin, et on est tellement un peuple tellement plus riche maintenant, avec des gens qui viennent de partout.
On a vraiment besoin de s'enrichir de plein d'autres cultures francophones pour se métisser, puis être vivant, hein, c'est vivant. Ben écoute, alors, si on veut en savoir plus... Vous avez un site internet, évidemment.
Oui.
Donc, cdem.com. Alors, on va là. Et puis, si on est très chanceux, on parle à Brigitte, qui est tellement sympathique. Merci beaucoup, Brigitte.
Ça m'a fait plaisir.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.